VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 11 septembre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Les inondations au Niger ont fait 57 morts et 130 000 sinistrés depuis le mois de juin. La dépouille de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est arrivée à Harare. Il sera inhumé dimanche après la RDC, l'émissaire américain pour la région des Grands Lacs, Peter Pan, clôture sa visite au Burundi avant de se rendre au Rwanda. Hommage aux victimes des attentats du 11 septembre, 18 ans après les États-Unis se souviennent. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique. Elle sport. Les inondations qui affectent le Niger depuis le mois de juin, y compris le nord désertique, ont fait 57 morts et plus de 130 500 sinistrés, selon le dernier bilan annoncé par le gouvernement hier soir. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon une communication faite à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, les régions de Maradi et de Zender restent à date les plus affectées. 25 000 et 39 000 personnes sinistrées respectivement. La particularité, c'est la région d'Agadez qui, d'habitude, est épargnée par le phénomène du fait de son caractère désertique. Plus de 18 000 personnes ont été affectées par les quelques millimètres de pluie enregistrés selon le ministère de l'Action humanitaire. À Niamey, la capitale, ces inondations ont été aggravées par la montée exceptionnelle des eaux du fleuve, occasionnant 6 310 personnes sinistrées. En plus des 57 décès, 851 têtes de bétail ont été décimées, 2251 hectares de cultures engloutis et plus de 12 000 maisons effondrées, selon le gouvernement qui annonce que des dispositions ont été prises avec l'appui des partenaires humanitaires pour apporter des réponses urgentes aux victimes. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Par ailleurs, en Tunisie, l'eau est montée à plus d'un mètre sur certaines artères de Tunis où la pluie diluvienne s'est abattue hier soir. Les inondations ont touché plusieurs villes. La dépouille de l'ex-président Robert Mugabe a été rapatriée aujourd'hui au Zimbabwe pour des obsèques nationales. Plusieurs chefs d'État vont y assister. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
En provenance de Singapour, l'avion spécial transportant le corps de Robert Mugabe s'est posé à l'aéroport d'Harare. Plusieurs milliers de personnes, dont son successeur Emmerson Mnangagwa et d'autres personnalités, ont fait le déplacement. Le cercueil de l'ancien chef de l'État, recouvert du drapeau zimbabwéen, a été transporté jusqu'à sa fameuse résidence du Toit Bleu pour un premier hommage public. Sa dépouille doit jeudi être exposée au stade Rufaro, dans la banlieue de Harare. Puis jeudi, le corps doit être conduit dans le village de Zimba, à une centaine de kilomètres de la capitale, où il avait une maison. Les funérailles officielles auront lieu samedi matin dans l'immense stade national des sports de Harare. En tête des personnalités attendues figurent le président chinois Xi Jinping, les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, nigérian Mohamedou Buhari ou Félix Tshisekedi de la RDC. L'enterrement est prévu dimanche à un endroit qui fait toujours l'objet de tractations entre les autorités et la famille du défunt président.
Tournée en Afrique de l'émissaire américain pour la région des Grands Lacs, Peter Pan, qui est à Bujumbura au Burundi, après un passage à Kinshasa et Goma en RDC. Lors d'une conférence de presse dans la capitale burundaise, il a déclaré que les États-Unis soutenaient le retour volontaire des réfugiés, mais pas de rapatriement imposé. Il a par ailleurs indiqué que les États-Unis souhaiteraient voir des élections crédibles et transparentes et étaient prêts à envoyer des observateurs si Bujumbura le demandait. Pour les élections de mai 2020, voici un extrait de sa conférence de presse.
Nous sommes prêts, comme toujours, à venir avec notre expérience, nos expertises de nos experts dans le processus électoral, nos observateurs indépendants. Nous espérons, parce que sera plus transparent et plus crédible si les élections ont les observateurs de la société civile burundais, mais aussi les observateurs de la sous-région à l'Afrique de l'Est, aussi de l'Union africaine et peut-être de la communauté internationale. C'est une chose que nous attendons. Ce n'est pas notre tâche à imposer.
C'était l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs, Peter Pham, clôturant une visite de 3 jours au Burundi avant de se rendre à Kigali, au Rwanda. Un tribunal égyptien a condamné à la prison à vie 11 responsables des Frères musulmans, reconnus coupables de financement du terrorisme et d'espionnage pour le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. Parmi les condamnés figurent le guide suprême de la confrérie Mohamed Badieh et son adjoint Keirat Al-Shater. 5 autres membres ont été condamnés à des peines de 7 à 10 ans de prison et 6 ont été acquittés. Au Maroc, le procès en appel de 24 hommes condamnés après la décapitation de 2 jeunes femmes scandinaves au nom du groupe État islamique a été ajourné au 18 septembre. La partie civile a réitéré sa demande de convoquer un prédicateur salafiste, Mohamed Al-Magraoui, pour son rôle présumé dans la radicalisation de certains accusés. Louisa Jaspersen, une étudiante danoise, et son amie norvégienne Maren Welland ont été assassinées en 2018 dans le Haut Atlas.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Américains ont rendu hommage ce matin aux victimes des attentats du 11 septembre, 18 ans après ces attaques qui ont fait près de 3000 morts. Le point avec Abdourahmane Dia.
Sous le soleil, des élus et ex-élus de New York et une foule de proches des victimes se sont rassemblés sur le site des tours jumelles du World Trade Center. Le lieu est devenu un mémorial en hommage aux près de 3000 personnes tuées et 6000 blessées dans ces attaques terroristes. La foule, réunie sur l'esplanade, a marqué une minute de silence à 8h46 et 9h03, heure auxquelles les avions détournés avaient successivement percuté les tours jumelles du World Trade Center. Le président Donald Trump a prononcé un discours au Pentagone où un autre avion s'était écrasé.
Nous ne pourrons jamais effacer votre douleur ou ramener ce que vous avez perdu. Nous pouvons honorer leur sacrifice en faisant tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de notre peuple.
Cette année, l'armée américaine pourrait recruter des jeunes qui sont nés après les attentats du 11 septembre et le pays veut s'assurer que la nouvelle génération n'oubliera jamais cette tragédie.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé un nouveau revers aujourd'hui après la décision de la justice écossaise qui a déclaré illégale la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines avant le Brexit. Le gouvernement a fait appel auprès de la Cour suprême à Londres. En attendant l'audience mardi prochain, le Parlement reste suspendu. Le parti Labour et la première ministre écossaise Nicola Sturgeon ont demandé qu'il soit immédiatement rappelé et des députés ont manifesté à Westminster pour reprendre leur siège. La promesse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie occupée compromet les perspectives d'une paix durable, a déclaré un porte-parole de l'Union européenne. Et Kiabadou nous en dit plus.
Aujourd'hui, j'annonce mon intention d'appliquer avec un futur gouvernement la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte, a annoncé Benjamin Netanyahou. C'est une promesse à son électorat de droite à une semaine des législatives israéliennes. La vallée du Jourdain représente environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Monsieur Netanyahou dit vouloir annexer les colonies juives, mais pas les villages ou villes arabes comme Jéricho. L'Union européenne ne reconnaîtra aucune modification des frontières d'avant 1967, y compris pour Jérusalem, autre que celle convenue par les parties, a rappelé le porte-parole européen. Les réactions d'indignation se sont succédées dans les pays arabes et musulmans, y compris l'Arabie saoudite, qui l'a qualifié de dangereuse escalade. Plus de 600 000 Israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle avec 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Un tribunal russe a levé l'interdiction de quitter Moscou qui visait le réalisateur Kirill Serebrennikov, impliqué dans une affaire de détournement de fonds. Les mesures préventives visant trois autres personnes inculpées dans cette affaire ont également été annulées, a indiqué la presse russe. Et Pékin a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne en Chine après la rencontre du chef de la diplomatie allemande avec un militant pro-démocratie de Hong Kong, venu chercher à Berlin des soutiens internationaux, nous signifiant notre grande déception et nous protestons très fermement contre le fait qu'un tel incident se soit produit, a déclaré l'ambassadeur chinois Wu Ken au cours d'une conférence de presse à Berlin. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire et le Ghana vont rencontrer des fabricants de chocolat à Abidjan ce mercredi afin d'élaborer des plans pour réglementer les efforts de l'industrie pour obtenir du cacao de manière durable. Le plan vient après des années de tentatives de l'industrie pour contrôler elle-même ses pratiques d'approvisionnement durable et éliminer le fléau du travail des enfants et de la déforestation dans le secteur du cacao en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent ensemble les deux tiers du cacao mondial. Des applications mobiles de taxi-moto révolutionnent le transport des Nigérians et les sauvent des embouteillages de Lagos. Les chauffeurs de taxi-moto sont contactés via des applications smartphone pour une course qui coûte au moins 12 centimes d'euros. Le service Oride de Mobile Opay, par exemple, a déjà formé plus de 3000 conducteurs à Lagos et dans 6 autres villes. Il espère développer ses activités grâce à une levée de fonds de 50 millions de dollars en juillet dernier. Gokada, un autre concurrent, veut investir plus de 5 millions de dollars pour lancer son application dans d'autres pays. Pour terminer, l'OPEP appelle à la responsabilité partagée de tous les pays producteurs de pétrole pour assurer la stabilité du marché. L'organisation a abaissé à 1,02 million de barils par jour sa prévision de croissance de la demande de pétrole cette année. Cette baisse est motivée par les statistiques économiques moins bonnes et des perspectives moins optimistes pour l'économie mondiale.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le Mali valide son ticket pour la CAN des moins de 23 ans.
Oui, les espoirs maliens ont battu leurs homologues du Maroc hier au stade Modibo Keïta de Bamako, 1-0. À l'aller samedi au Maroc, les Maliens avaient accroché les lionceaux de l'Atlas 1-1. Écoutons le coach adjoint du Mali, Ousmane Guindo.
La clé de ce match a été la deuxième mi-temps. Parce qu'en première période, nous avons joué comme eux. Et ils jouaient de longues balles. Parce qu'ils avaient des grands détails qui s'étaient devant. Donc en deuxième période, nous avons essayé de jouer balle à terre. Essayer de faire notre jeu parce que nous avons beaucoup de techniciens dans le groupe. Vous avez vu, on a eu un jeu fluide, un jeu alléchant en deuxième période. En football, chaque match a sa vérité. Si on s'était dit que la qualification était acquise, ils allaient nous piéger ici pour nous marquer un but. On a dit qu'il faut être les premiers à marquer ici pour pouvoir se sécuriser. Sinon, la qualification, on ne la gagne pas d'office.
Ousmane Guindo, coach adjoint du Mali au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. À Conakry, des scènes de violence ont été enregistrées au stade du 28 septembre où la Côte d'Ivoire a battu la Guinée 1-2. Des supporters mécontents du Sili National Espoir ont lancé des projectiles sur la pelouse pour désavouer les choix du coach guinéen qui a préféré laisser Jules Keïta et Maï Traoré titulaires au match aller sur le banc des remplaçants. On connaît désormais les 8 équipes qualifiées pour la CAN des moins de 23 ans. Il s'agit du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, de la Zambie, de l'Afrique du Sud et du pays organisateur, l'Égypte. La compétition va se dérouler du 8 au 22 novembre prochain. Les trois premiers composteront leurs billets pour les JO Tokyo 2020.
La CAF a trouvé une structure pour l'audit de l'institution.
Aujourd'hui, nous avons annoncé que le PwC a remporté l'appel d'offres pour effectuer un audit complet de la CAF. Il devra être rendu en novembre et servira de base pour la suite des réformes pour le bien du football en Afrique, a annoncé le président de la CAF, Ahmad Ahmad, sur son compte Twitter. L'audit a été au cœur des débats lors de la réunion du comité de la FIFA et de la Task Force, tenue aujourd'hui au siège de la CAF. Les débats ont aussi porté sur l'organisation efficace et professionnelle des compétitions. La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a entamé une partie de ce travail depuis le 1er août 2019.
Les États-Unis surpris par la France en quart du mondial de basket.
Les Américains, double champion du monde et triple champion olympique en titre, ont été éliminés par les Français 89-79, malgré 29 points et 6 rebonds de Donovan Mitchell. Team USA du mythique coach Greg Popovich a sombré en fin de match face au rythme imposé par la France, avec notamment des prestations XXL de Rudy Gobert, 21 points et 16 rebonds, et Evan Fournier, 22 points et 4 passes décisives. De son côté, l'Australie a pris le dernier billet pour les demi en battant la République tchèque.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La dépouille de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans, est arrivée à Harare en provenance de Singapour où il est décédé la semaine dernière. Des obsèques nationales sont prévues pour ce dirigeant qui a passé 37 ans au pouvoir. Plusieurs chefs d'État africains sont attendus dans la capitale. Abdourahmane Dia a demandé au président guinéen Alpha Condé, en visite à Washington, ce qu'il retenait de Robert Mugabe.
Mugabe a été un très grand président, une fierté pour l'Afrique. Parce que peut-être que vous êtes jeune pour ne pas savoir que c'était la rupture du Sud quand Ian Smith a décidé, contre l'avis de l'Angleterre, de créer une sorte d'État blanc en faisant des Noirs de Bantoustan. Mais il faut reconnaître aussi que les accords de Lancaster l'Angleterre s'était engagée à indemniser les fermiers blancs pour qu'on puisse faire la réforme agraire, ce qui n'a jamais été respecté. Pendant un moment, l'économie du Zimbabwe allait très bien parce qu'ils étaient des grands fournisseurs de maïs et le grenier. Mais comme l'Angleterre n'a pas respecté ses engagements, évidemment, Robert Mugabe a fait la réforme agraire. Malheureusement, les Africains, ça a été un peu plus politique qu'on peut ça dire. On a donné aux anciens combattants et autres qui n'étaient pas les mieux indiqués pour cultiver. Donc ça a fait que l'économie a baissé. Évidemment, à la fin, il y a eu beaucoup de problèmes avec le comportement de sa femme, mais on ne peut pas oublier. Je parle toujours, on dit que il arrive qu'une poule vole plus haut qu'un aigle, qu'il arrive qu'un aigle vole plus bas qu'une poule, mais une poule ne volera jamais plus haut qu'un aigle. Donc pour moi, quelles que soient les vicissitudes, Mugabe reste un aigle.
D'accord. Est-ce que vous regrettez la manière dont il a été poussé à la sortie?
Vous savez, le président actuel a été un des principaux lieutenants du président Mugabe. Il a été formé en Chine et il l'accompagnait tout le temps. Le drame, c'est le comportement de la deuxième femme de Mugabe, qui a voulu mettre de côté tous les héros de la guerre. Étant donné que Mugabe était fatigué, elle a voulu manipuler. Donc c'est ça qui a été la cause. C'est moins dirigé contre Mugabe que contre elle, parce que le président actuel est quand même un historique. Il a suivi dès le début la lutte armée. Donc ces gens-là aujourd'hui sont quand même les compagnons de Mugabe.
Le président guinéen Alpha Condé s'exprimait lors d'une visite à Washington. Vous pouvez retrouver l'interview intégrale sur voaafrique.com et notre page Facebook.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Au Cameroun, le président Paul Biya a convoqué pour fin septembre un grand dialogue national afin d'aborder le conflit dans les régions anglophones. Monsieur Biya a réitéré son offre de pardon aux séparatistes armés qui déposent volontairement les armes. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Douala le politologue Manassé Aboya-Ndong.
On s'attendait à la convocation d'un tel dialogue, surtout que depuis quelque temps, le Premier ministre John Goute s'attelait à recevoir beaucoup de leaders d'opinion, de chefs religieux, voire quelques représentants des groupes radicaux qui nécessairement ont dû aboutir à décider le président de la République à convoquer ce grand dialogue national autour de ces questions-là pour un retour durable à la paix.
La manière dont il compte l'aborder, est-ce que vous pensez que ça va ramener la paix?
Naturellement, puisque déjà, il indique que ce dialogue sera inclusif, qui n'exclura personne. Et il a identifié quelques acteurs, en l'occurrence les hommes politiques, les parlementaires, les leaders d'opinion, les groupes armés. Ça veut dire qu'il a un souci extrêmement pointu, aigu, confirmé, de vouloir tourner la page de cette triste situation qui a embrasé une partie du Cameroun depuis quasiment 3 ans, mais également parce qu'il ne va pas seulement s'intéresser à ces questions concernant le nord-ouest et le sud-ouest, mais également l'ensemble des autres Camerounais qui pourraient y prendre part, les autres régions du Cameroun.
Mais Julius Ayuk est encore en prison.
Et il n'est pas le leader des séparatistes, il est leader d'un groupe qui revendique l'indépendance, la sécession de la partie anglophone. Et le président a indiqué qu'il n'a pas affaire aux leaders autoproclamés qui n'ont aucune légitimité de la part de qui que ce soit. Il fera avec ceux qui respectent les lois de la République. Or, vous savez que ces leaders qui sont en prison ont bel et bien été traduits pour des atteintes graves à l'intégrité du territoire.
Vous parlez d'un dialogue inclusif, mais Maurice Kamto, il est exclu.
Maurice Kamto rentre dans la catégorie des gens qui ne peuvent pas bénéficier de l'impunité parce qu'ils auraient porté atteinte aux lois de la République.
Ça va être un dialogue sélectif.
C'est un dialogue davantage inclusif, ce d'autant plus qu'il cible les catégories qui pourraient justement apporter du leur. Vous savez qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui s'autoproclame président, donc qui ne reconnaît pas la légitimité de celui qui organise un dialogue à gagner les élections à l'issue d'un scrutin qui a été régulièrement proclamé par le Conseil constitutionnel.
C'était le professeur Manassé Aboya Ndong, politologue affilié à l'université de Douala.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les ministres de la sécurité des pays du G5 Sahel sont réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une rencontre d'urgence au regard de la récurrence des attaques terroristes dans la région. Les pays du Sahel veulent mutualiser leurs efforts au plan militaire et en matière de renseignement pour faire face au terrorisme. De Ouagadougou, voici un reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Ici à Ouagadougou, ministre de la Sécurité et de la Défense, spécialistes et experts réfléchissent sur les moyens d'action de lutte contre le terrorisme dans la région.
Il faut une plus grande synergie des efforts, des actions entre les différents ministères, enfin entre différents décideurs.
Sambo Sidikou est le secrétaire permanent du G5 Sahel.
Qui est qui? Qui nous mène la guerre? Ces informations sont vitales, importantes. Nous les avons, c'est évident. Mais encore faut-il les mettre ensemble pour arrêter une stratégie plus précise, plus efficiente. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la région des trois frontières, Niger, Burkina, Mali, est un problème majeur pour nous. Nous savons très bien que Kidal est un problème majeur. Nous savons bien que la forêt de Ouagadougou est un problème. Nous savons bien que le lit du lac Tchad est un problème. Ce sont des sanctuaires inacceptables pour nos États.
Ce refrain sur la coopération, la mutualisation des forces est aussi ancienne que la force commune. Mais les observateurs assurent que les États ne font qu'en parler, sans résultat concret pour ces problèmes urgents de sécurité. Ce matin encore, le vœu de plus de coopération a été formulé. Ousseyni Compaoré, ministre de la Sécurité du Burkina.
Je voudrais lancer un appel vivant pour que toutes les forces, toutes les énergies des pays du G5 Sahel, en collaboration avec toutes les forces, toutes les capacités, toutes les expertises sur le plan international et sous-régional se mettent ensemble pour conjurer, pour arrêter le terrorisme dans l'espace du Sahel.
un message partagé par les autres ministres.
La réponse au terrorisme est une réponse strictement militaire, c'est très clair. Cela a toujours été défendu par les chefs d'État.
Mohamed Bazoum, ministre de la Sécurité du Niger.
Nous avons besoin de coordonner nos renseignements. Nous avons besoin de coordonner toutes les actions qui peuvent découler des informations susceptibles d'être acquises dans le cadre justement de ce dispositif que nous allons mettre en place. Nous ne sommes pas venus ici pour définir des stratégies et les porter à la connaissance des journalistes pour qu'elles soient portées à la connaissance du public et des terroristes eux également. Mais nous sommes venus pour faire un travail de réflexion qui va être extrêmement utile dans une bataille qui est longue.
Cette rencontre se tient au moment où l'espace sahélien connaît de nombreuses attaques terroristes. Ces derniers jours, plus d'une trentaine de personnes ont été tuées dans le nord du Burkina. Samedi, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, élargi au Tchad et à la Mauritanie sur la lutte contre le terrorisme, se tiendra à Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Cinq chefs d'État africains ont appelé la Chine à financer les projets de développement initiés sur le continent, tant par le secteur public que privé. Les dirigeants ont fait cet appel hier à l'ouverture de la 5e édition du forum Investir en Afrique, organisé à Brazzaville par le gouvernement chinois, la Banque chinoise pour le développement et la Banque mondiale. Notre correspondant dans la capitale congolaise, Arsène Séverin, nous en dit plus.
À travers la 5e édition de son forum consacré aux investissements en Afrique, la Chine revient proposer de nouveaux financements pour les pays en mal de développement. Cette fois-ci, l'économie numérique, aux côtés des infrastructures et de l'énergie, occupe le cœur des discussions qui se déroulent à Kintélé, au nord de Brazzaville. Léon Justi Bombo, ministre en charge de l'économie numérique du Congo-Brazzaville.
C'est une entreprise chinoise, CCC, qui va justement interconnecter le Congo avec le Cameroun, le Congo avec la République centrafricaine. Et l'équipementier Huawei va fournir les équipements de ce projet. Donc le partenariat avec la Chine, c'est un partenariat fécond. Et nous avons besoin justement de la valeur ajoutée de la Chine.
Un des orateurs au forum, l'entrepreneur Véron Manco, à qui l'Afrique doit sa première tablette, estime que la Chine est capable de soutenir les jeunes développeurs de logiciels et d'applications du continent.
La Chine absorbe le plus grand nombre d'étudiants africains et même congolais sur des formations qui concernent l'ingénierie en matière de télécommunications et du numérique. Maintenant, là où nous attendons les Chinois, c'est dans l'établissement des partenariats sur des projets, pas toujours dans les infrastructures, mais dans des projets, par exemple, de conception de logiciels, d'applications, des services.
Les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise constituent 52% des participants à ce forum. Fort de cela, Paul Obambi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville, appelle les gouvernants à améliorer le climat des affaires pour favoriser les investissements chinois.
Je pense que c'est à nous de créer les conditions pour que l'Afrique soit attractive. Les financements, il y en a plein dans le monde. Donc si nous nous organisons, si le cadre structurel est en place, le cadre juridique est en place, s'il y a la sécurité des investissements, financer, c'est facile.
Sur la tribune officielle, cinq chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, João Manuel Lourenço de l'Angola, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de la RCA et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ont unanimement appelé les Chinois à mettre plus d'argent dans le développement de l'Afrique. Félix Tshisekedi.
Depuis le début des années 2000, l'appétit des pays africains pour les investissements en infrastructures a conduit nombre d'entre eux à gager leurs matières premières pour assurer ce financement. Le résultat de ces expériences est aujourd'hui fort mitigé.
Avant d'ouvrir le forum, Sassou Nguesso a invité les Chinois à soutenir les jeunes entrepreneurs africains.
La maîtrise du numérique et de l'innovation technologique marquera encore, sans le moindre doute, les relations entre la Chine et l'Afrique. C'est pourquoi j'exhorte une fois de plus les investisseurs chinois à apporter un soutien significatif aux opérateurs africains du dit secteur.
Cette 5e édition du Forum Investir en Afrique prend fin demain jeudi. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Justin Twets. À la console, Firmin Max Koyaweda. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.
Bienvenue à bord.